Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction de Gameblog. Alors ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, surtout qu'aujourd'hui nous allons parler d'une thématique fort sympathique. Ce sont les jeux qui ont marqué l'histoire de notre médium. Alors pas de Madame Soleil, mais plutôt du jeu vidéo, ce qui nous passionne ici et nous regroupe tous ensemble autour de la
table. Ce grand feu et ses chamallows.
Exactement. Et pour parler de tout ça, eh bien, je suis entouré de Julo. Comment vas-tu, Julo ?
Très bien, et toi ?
Alors ton pull est vachement moins funky que d'habitude.
Mais qu'est-ce oui, c'est normal, c'est le mien.
Angel, qui à la main arbore un breuvage qu'on ne citera pas.
Comment ça va, mon ami ?
Ça va bien. Combien c'était caché ?
Ok, ça c'était une super prévue de jeu. Exactement. Que personne ne pourra jamais capter.
Vous avez reconnu la voix de Raon qui est aussi parmi nous.
Et aussi malade, ouais.
Voilà.
Si vous entendez aussi un gars en train de crever ou de tousser, bah, ça sera moins.
Ce ne sera pas des plosives, mais juste rachat. Voilà. Tout simplement. Oh. Des glaires. Et Kaf, parmi nous, notre master du son.
Je m'éloigne de Raon et c'est bon.
Voilà. Bon, alors tout le monde est là pour ce 33e podcast. 33e podcast présenté par JC. Voilà. Et donc, pour nous parler, vous l'avez tous et sont tous là. Hein. Donc, pour parler des jeux vidéo qui ont vraiment fait avancer l'histoire du vidéo, justement, eh bien, on a décidé, un peu arbitrairement, il est vrai, mais enfin, il y a tellement de jeux qu'on a en fait réparti les choses en périodes, en tranches d'années. Et on va commencer en fait en 1983. Donc, on ne va pas parler de Pong, on ne va pas parler de tous ces jeux en oscilloscope qui ne sont parfois les premiers, parfois les derniers, on ne sait pas. Enfin, c'est assez difficile à déterminer. Et donc pour ça, eh bien direction l'année 1983, première tranche sur laquelle nous allons revenir, 83-90. Et le premier jeu, j'aurais envie moi de parler de Dragon's Lair. Dragon's Lair qui est un jeu qui a une actualité hein, fréquemment dans les podcasts de Gameblog. Angel qui saisit le micro pour nous parler de ce Dragon's Lair.
Je pense que sans Dragon's Lair, Shenmue n'aura jamais existé. Et là, j'ai le tir à la tronche.
Et donc, fatalement, ça fait avancer le jeu vidéo. Mais alors, pourquoi ? Est-ce qu'on peut resituer un petit peu le jeu ? Qu'est-ce que...
À l'époque... Non, bah alors, Dragon's Lair, c'était une aventure interactive.
Mm-hmm. Hein, et là, tout est dit.
Voilà, donc, c'est juste ça. Où,
bah, il a inventé les termes marketing débiles.
C'était un jeu de quick time event, à savoir, donc il y avait une séquence animée qui défilait. Et puis, on te disait d'appuyer sur...
On te disait pas, c'est ça aussi. Ouais. C'est curieux.
Oui, voilà.
Il fallait deviner que...
Voilà, la séquence de boutons pour faire avancer et pas crever, pour faire avancer donc l'aventure et ne pas crever.
Mais moi j'ai une question, quand ça tournait sur quoi à l'époque ?
Arcade,
c'était sur arcade.
Il n'y avait pas Laserdisc à l'époque, moi j'ai connu la version
plus tard,
de
Laserdisc.
D'accord, parce que Laserdisc en 83 c'était un peu c'était le VHS encore, donc c'est pour ça que je suis étonné. Mais moi tu vois, Dragon's Lair, j'ai pas joué beaucoup parce que justement ça m'a énervé. Puis tu vois, les Quick Time Events ça m'a énervé après, donc tout est normal.
Voilà, et donc, elle m'arrache pas le.
Il y a Juno qui est en train de crever, il veut absolument parler.
Et donc, le Quick Time Event, un concept qu'on a retrouvé bien des années plus tard, Shenmue notamment, et depuis.
Dans quel jeu ?
Shenmue.
Resident Evil aussi, enfin.
Ouais, mais Shenmue,
encore
rien,
validation de
plutôt,
séquence
il
de boutons.
C'est vrai qu'il a réhabilité ça, quoi. On va lui attribuer ça.
Et après, on s'est mangé ça dans God of War, ou des trucs comme ça. Quoi.
Donc finalement, le premier dessin animé interactif.
Oui, aussi, peut-être. À moins que je me trompe, mais je pense.
Et si sur ce premier jeu, vous avez quelque chose à dire, genre Angèle dit des conneries sur les dates et les laserdiscs et tout ça, lâchez-vous sur le forum, je le dis d'entrée.
Bien évidemment. Hein. Et puis au pire, sinon, vous savez que dans le site, vous pouvez trouver l'adresse de Gameblog, si ça devient physique. On continue avec un autre titre qui a aussi marqué son époque. Je crois que Kaft, un jeu toujours en 83.
Ouais, parce que c'était un jeu qui était assez nul, il faut quand même l'avouer. C'était sur Vectrex, donc la console de Milton Bradley, ceux qui faisaient puissance 4, et ça s'appelait Spike, qui était un des jeux les plus pourris de la Vectrex au départ.
Alors justement, je fais juste un petit point. Les jeux qui ont fait avancer le média, le jeu vidéo, c'est donc pas forcément, vous l'avez compris, des bons jeux. C'est des jeux qui ont apporté une petite touche, une petite originalité, mais parfois c'est pas forcément réussi.
Ben voilà, parce qu'en fait là c'était pas réussi, mais ça a fait vendre ce titre parce que du coup tout le monde était hyper intrigué. C'était le premier jeu avec des digitalisations vocales, pas de la synthèse vocale, des digits vocales qui étaient d'ailleurs nuls.
Il y avait... Je confirme, c'était nul.
Je vais avoir un flashback.
J'avais le Vectrex aussi,
comprenait même pas.
Et c'était nul à chier. C'était
Ouais.
Flashback, instant flashback.
Flashback, digitalisation vocale, manoir de Morteviel.
Oui, mais non.
Moi, c'est le premier qui m'a remarqué avec ses digits de vocal.
Bien sûr, mais c'était encore après. Non, mais
c'était vachement longtemps après.
Oui, mais c'était bien mieux que Spike, parce que Spike, c'était Oh Molly. Et c'était mais
naze. Avec des échafaudages pourris.
Le jeu était pourri. Le jeu était dramatique.
Enfin, c'est le premier qui nous a permis d'entendre des pseudo voix dans un jeu vidéo.
Il n'y en a pas eu d'autres avant.
Et déjà, je pense qu'on avait quelques émotions.
Mais non, mais moi, j'étais en
train dégoûté d'avoir acheté le jeu.
Oh Molly. Bah attends, je vais la sauver. Bouge pas. Pas de problème. C'est un jeu d'échafaudage pourri, mais je vais y jouer. Voilà.
Jeu d'échafaudage.
Non, mais d'ailleurs, ils avaient bien compris, parce qu'ils avaient basé. Enfin, toute la campagne de pub, c'est beaucoup dire, c'était mais, ça, ouais. Mais tout était basé là-dessus, quoi. Sur attention, digit vocal, le jeu qui vous parle.
Alors là, vous reconnaîtrez très facilement ceux qui ne parlent pas, n'avaient que 3 ans ou moins, ou pas beaucoup plus à cette époque-là, donc ils ne s'en souviennent pas.
C'était ma première console achetée avec mes sous, je suis déjà vieux.
On enchaîne sur un autre titre, toujours la même année, 83, néfaste pour l'évolution du jeu vidéo, avec un jeu arcade à l'époque, c'est Track and Field. Est-ce que quelqu'un aurait envie d'en parler? Track and Field, donc c'est du sport, hein, mais c'est la première fois où...
Ah bah, si c'est du sport, il faut que ce soit Angèle qui en parle.
surtout qu'Angèle s'est autoproclamé roi du pumping, ce qu'on appelle le pumping, donc voilà, Track and Field.
Alors Track and Field, explication, ouais, qu'est-ce
explique
que ça apporte?
Parce que je suis super inquiet quand même.
Alors Track and Field, ça c'est à l'ancienne aussi, c'est quand il jouait juste avec les sticks et tout ça. À l'époque, on n'appuyait pas trop les boutons. Mm-hmm. C'était le joystick, c'était de gauche à droite. Hein. Et, mm-hmm. Le nombre de joysticks ont été niqués comme ça. Je pense que les bennes ordures en étaient pleines. Quoi.
En tout cas, toujours dans l'optique, qu'est-ce que ça fait avancer?
Donc, c'était le premier jeu de sport, avec des épreuves sportives, genre 100 mètres, où on te disait, ou pour aller vite, il fallait aller de gauche à droite.
Voilà.
Voilà, le plus rapidement possible.
Donc un effort physique.
Un effort physique, et en plus.
Masturbatoire.
Et avec une quête du joystick.
Incassable.
Incassable. Et le plus pratique, d'ailleurs, les micro-switch, les switch qui étaient ultra pratiques et qui permettaient d'aller super
attention,
vite.
Attention, instant anecdote avec Julo.
Non, vous vous rappelez de Defenders of the Crown?
Oui,
voilà, sur Amiga. Et moi, il y avait une épreuve comme ça où il fallait vachement pomper sur le joystick de gauche à droite.
De pompidote,
ouais.
Donc.
Non,
sur Defenders of the Crown.
De ouais, c'était des bras de fer, non? Il n'y avait pas des bras de fer dans Defenders of the Crown?
Ah, les bras de fer.
Et en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais démonté mon joystick. Et complètement. Ouais. Et du coup, j'appuie directement sur les capteurs avec mes doigts et ça allait super plus vite et j'ai tous mes bras de fer. Voilà.
Comment c'est mieux à comprendre pourquoi Gameblog est fait par des oufs, des grands malades.
Des oufs malades.
C'est quelques indices.
Voilà, c'était mon anecdote pourrie.
Et ça fait plaisir.
Bon alors.
Ça vous dit qu'on avance un tout petit peu?
Ouais, ouais.
Allez, c'est parti.
Allez, juste d'une année. Cette fois-ci, on arrive en 84 avec un jeu, franchement, si vous aimez les jeux vidéo, c'est impossible que vous ne l'ayez pas joué ou en tout cas entendu parler. C'est Karateka.
Oh là là.
Qui veut parler de Karateka?
Moi j'y ai joué sur Apple II, j'y étais.
Ah bah
j'y étais, monsieur.
C'est parti.
En fait, c'est le premier jeu où, quand tu commençais à avoir une animation, déjà tu avais un scénario. C'était un jeu où il fallait monter un karatéka. Hein. Voilà, le titre, il se
c'était le scénario.
Le marketing, ils étaient un peu moins
chiants.
C'était
l'époque où les jeux de voiture s'appelaient car. Ou les jeux,
c'était quelle belle époque.
Le football, c'était soccer.
C'était pas what machin, bidule truc, 3.0. Ouais. Enfin, bref. Et du coup, t'arrivais, t'avais des petites scénettes. Donc déjà, ça c'était super nouveau dans un jeu vidéo où tu mettais en place le scénario. La nana qui est emprisonnée, qu'il faut aller sauver, blablabla. C'est super original en même temps. Et du coup, t'arrivais avec un personnage et dès qu'il se mettait à bouger, c'était la révolution parce qu'avant c'était des sprites qui faisaient genre t'avais un pied qui avançait, c'était pourri. Et là t'avais des vraies animations avec un personnage qui bougeait réaliste pour l'époque. Hein. Et derrière tu avais un jeu de combat qui était pas à deux, t'étais tout seul et tu shootais les mecs avec des différents mouvements qui étaient super bien faits, rotoscoping like. Donc c'était des photos redessinées à l'écran en fait. Ils prenaient des photos des animations et ils redessinaient derrière. C'était l'ancêtre de la motion capture du pauvre en fait.
Tu sais qui a fait ce jeu?
C'est Jordan McNair.
C'est ce qui me semble. Hein. Mais franchement moi c'est ce qui me semble. Donc le papa de Prince of Persia.
Tout à fait.
Ses premiers essais d'animation fluide.
Exactement. C'était le rotoscoping. C'était les premiers essais de Jordan McNair pour faire qu'il a réutilisé derrière, mais effectivement c'était ça quoi.
Prince of Persia, on en reparlera un petit peu plus tard dans
89
ce
sur Apple de
voilà où cette fois-ci les essais qui avaient été faits sur l'animation c'était sur son frère.
Ouais, il avait filmé son frère qui faisait des mouvements et il avait fait son rotoscoping à partir de ses bandes vidéo. Ouais.
Mais t'es sûr que c'est pas voilà,
heureusement qu'il était
vous m'envoyez, je me demande si c'est pour karaté, enfin bref voilà, je ne dirai rien parce que je vais dire des bêtises.
Eh bien vous le savez, sur les forums de Gameblog, soyez participatifs vous aussi. Voilà, hein, on a le droit, les erreurs sont humaines, mais peut-être qu'on est super. Donc on continue, toujours la même année, rien à rajouter sur Karateka, tour de table, personne n'a l'instant anecdote.
Non, personne.
Donc 84 toujours, King Quest. Est-ce que quelqu'un désire prendre le micro pour parler de King
Quest?
C'est
dommage qu'on n'ait pas Traz là pour le coup, parce,
bah ouais, parce que lui
il a fait
a
tous kiffé. Les jeux d'aventure Sierra. Ouais.
Moi j'y ai joué, mais vas-y.
Non, moi les jeux Sierra, je ne sais pas faire en fait, donc...
Moi, je les faisais plus tard, mais 84, je confirme que j'ai pas joué à celui-là. J'ai joué à plus tard parce qu'en fait, les jeux King Quest étaient de manière régulière des jeux qui faisaient avancer la technologie pour servir l'histoire en fait. Et en plus Sierra est une boîte qui du coup grâce à King Quest a eu des moyens très très vite de faire
c'était des jeux d'aventure
ils avaient les moyens de leur ambition. Roberta Williams qui était la nana qui est à l'origine de cette série et son mari était le patron de la boîte et elle a fait vraiment avancer le jeu d'aventure là-dessus parce que c'était les premiers jeux où tu avais des écrans où tu pouvais vraiment balader dans un monde qui avait une cohérence etc. et graphiquement c'était plus du texte, tu étais vraiment dans un truc graphique qui était vraiment devant toi. Le premier était ignoblement moche, mais évidemment pour l'époque il était fantastique
voilà.
Et dès les années fin 90 etc, ça a été les premiers à utiliser ce qu'on appelle les armes MIDI
fin 90
pour mais des années après en fait, non début fin 80.
Parfois, on fait un petit raccourci spatio-temporel.
Non, mais voilà, parce qu'en fait, ils ont innové sur certains trucs. Et donc, l'utilisation, il y avait un truc sur PC, parce que les cartes sonores sur PC étaient pourries. Et le jeu a été adapté, enfin, était vraiment une licence PC qui était adaptée sur d'autres micros, parfois consoles d'ailleurs, je crois, sur certains épisodes. Parce que le dernier est quand même sorti en 98. Donc, c'est une saga qui a.
Il y en a eu combien ? Il y en a eu 12 ou un truc comme ça ?
Il y en a eu 8, en fait. Il y en a eu 7 vraiment jeux d'aventure. Et t'as un quiz game au milieu, en fait.
D'accord. Merde.
Et ouais.
Qu'est-ce qui s'est donc bien passé ?
Bah, c'est Sierra, c'est faut rentabiliser au bout d'un moment, parce que la boîte, elle est moins bien quand même, milieu 90, hein, la preuve, parce que ça n'existe plus que sous forme de licence maintenant. Et ce jeu, tout bêtement, ils ont eu des samplers MIDI qui s'appelaient DMT32. Donc moi, j'y jouais sans vraiment grand intérêt, parce que je n'étais pas fan de l'univers, mais en revanche, les musiques étaient fantastiques à l'époque et il n'y avait pas grand chose à ce niveau-là. Mais on était, ouais, c'était 1993-1994.
Et de King Quest a découlé Space Quest.
Ouais, qui est fantastique.
Les Space Quest, et toujours, parce qu'on parle de la.
Qui n'a rien innové du tout d'ailleurs. Mais...
Les CD King Quest ont révolutionné. Le genre de jeu d'aventure, quoi. C'est ce qui a permis de retrouver après les Space Quest et même tous les LucasArts, du genre Dave the Tentacle, Monkey Island et compagnie. Quoi.
Ils ont été précurseurs, c'était pas encore vraiment du point and click, mais ils étaient précurseurs sur le genre en fait.
Dans la manière de raconter une histoire, de la montrer, de renforcer
l'immersion. Même en termes de gameplay.
Déjà, c'était une aventure graphique.
D'avoir des vilains
quoi,
qui étaient emblématiques que tu retrouvais d'un scénario à l'autre, la série avait vraiment évolué comme ça, donc tu retrouvais à peu près les mêmes personnages.
Puis surtout, comme disait, c'était plus une aventure textuelle à la con.
Ouais,
parce qu'au départ, les premiers jeux d'aventure, c'était que du texte, donc effectivement tu rentrais les commandes, c'était un truc en ligne de commande, tu rentrais look, door, open, machin, et donc c'était très très austère.
Et
au
comme
début.
Ça marchait pas, tu finissais par taper, mais va te faire foutre.
Le jeu avançait.
Tu finissais par péter un boulon.
Et ça c'est resté un standard pendant des années, puisque même sur Amiga il y avait des écrans, etc. Mais tous les jeux Magnetic Scroll, Day of the Pawn, Sif, etc., il y en a eu plein où c'était vraiment des jeux qui ont super marché. C'était déjà les années 90, mais c'était la fin en fait. On y jouait parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais King Quest avait déjà révolutionné le truc depuis des années quoi.
Très bien, très bien. Ça c'était d'une banale analyse. Traz, si tu nous écoutes, j'espère que tu auras apprécié.
Et si on a dit des conneries, c'est défoncé dans le fort.
Voilà, puis alors Traz frappe fort, hein. Ça rigole pas. Ce monsieur, c'est de casser des murs. Une année plus tard, nous avançons toujours dans ce périple incroyable, 85 désormais, avec un jeu tout simplement mythique. Probablement le premier jeu qui a su fédérer les hardcore gamers, les casual gamers, même si à l'époque, ces classifications n'existaient pas vraiment.
C'est Tetris.
Alors, qui veut parler de ce jeu juste culte
de toute façon, je pense que tout le monde peut en parler de Tetris.
Tout le monde y a joué, hein. Ça c'est
obligatoire. Déjà, ça pose le décor. Tout le monde y a joué, voilà. Et puis je sais pas, enfin moi c'est le premier puzzle game comme ça dont je me souviens, quoi. Enfin vraiment, il y en a probablement eu d'autres avant.
D'une telle intensité, d'un tel impact.
Mais aussi cohérent du début jusqu'à la fin, avec une formule aussi propre et enfin tellement géniaux en fait que.
Et puis c'est le premier jeu Game Boy de tout un tas de gens.
Oui.
Ah oui, alors ça un peu plus tard. Ça,
c'était plus tard évidemment, mais c'était voilà, c'était le premier jeu Game Boy.
Le jeu qui était livré, avec et tout. Voilà.
Développé en Russie sur des ordinateurs qu'on n'a jamais eu et qui a révolutionné le game.
Qui a été vite adapté en fait, parce que c'est pas Pajitnov qui l'avait sorti sur PC, c'est un de ses collaborateurs qui l'avait adapté sur PC et c'est à partir de là que ça a explosé. C'était la même année d'ailleurs, je crois. Mais
de toute manière, il y a un documentaire passionnant sur qui a
sur la BBC,
sur la
BBC.
On en a déjà parlé. Exactement.
Non, mais pour ceux en tout cas qui n'ont pas eu encore l'occasion de le voir, c'est encore disponible sur Dailymotion ou YouTube. Allez vous ruer dessus parce que. C'est passionnant quand même de voir à quel point ça s'est passé.
Taper Tetris BBC, je pense qu'il y aura un résultat.
C'est évident.
Parce que c'était produit par la BBC.
C'est fantastique.
C'est curieux parce que c'est même pas forcément un jeu qui a si fait avancer le médium dans son ensemble que ça. Il n'a pas forcément donné naissance à des tas de choses hallucinantes dont on peut faire l'expérience aujourd'hui, mais on est obligé d'y passer parce que c'est quand même lui qui a mis en place qui s'est peut-être pour moi réduit vraiment à ce qu'est le principe du jeu, quoi, la mécanique du jeu. Mm-hmm. C'est juste un principe très simple et c'est ça qui fait qu'on reste coaché des heures devant l'écran. C'est pas nécessairement l'histoire, même si j'adore les jeux avec des histoires et tout ça.
Et puis c'est probablement l'un des titres qui aura permis à plein de personnes qui se disent non-joueurs d'être joueurs.
Effectivement.
Parce que tout le monde y a touché, même des gens qui peut-être n'auront joué dans leur vie.
Tout le monde connaît Tetris.
Tetris,
ma mère. Mais
jeu électronique. Voilà.
Je pense que c'est.
Qui a fini le jeu avant moi.
Il va y avoir une quantité de gens qui ont acheté la Game Boy donc avec Tetris ça, ouais. livré. Dessus et qui n'ont plus jamais acheté d'autres jeux.
Il y a sûrement des parents qui ont gaulé les Game Boy de leur gosse.
Tu vois, pour l'avion, pour l'avion oui. le train, le métro, n'importe quoi. Et puis voilà,
mais voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous prenez l'avion ou n'importe quoi et tout, il y a toujours un Tetris.
Voilà.
Vous avez un PC, il y a toujours un Tetris en shareware, en freeware, en ce que vous voulez. Enfin, il y en a 12 milliards de versions différentes. Et puis surtout, après, bah, ça a inspiré plein d'autres jeux, les Columns, Dr. Mario.
Puis toutes les variantes de Tetris. Maintenant, t'as des hardcore gamers de Tetris, surtout. Ouais. Avec les règles officielles. Les mecs sont pas d'accord. D'accord avec les règles officielles. Le mec, il a signé sur Nintendo, il a fait la Tetris Company derrière. Mm-hmm. Sa boîte ne fait que gérer les droits de Tetris.
Donc, un très, très grand jeu qui est donc sorti en 1985. On avance un petit peu avec un autre jeu indémodable, cultissime, qui en plus est dans l'actualité des prochaines semaines. C'est Mario, le premier Mario sur NES, Super Mario Bros, qui débarque en 86. Là,
et là, tout est
tout simplement la révolution. Là, ça calme direct tout le monde. Le premier vrai jeu de
plateforme. Mais je sais pas, c'est un jeu qui a. On utilise encore aujourd'hui des reliquats, c'est des mécaniques qu'on a découvert là-dedans, quoi. Je sais pas, les bonus, les warp zones, tous les trucs cachés,
les plateformes mouvantes.
Il y a tellement de choses.
Les princesses à sauver.
Ouais.
Non, ça ils ont repiqué en revanche.
Il y a tellement de base dans ce jeu qui sont repris encore par des millions d'autres et encore
qui s'appelle pas Mario.
Qui s'appelle pas Mario, mais qui sont même pas forcément des jeux plateforme, parce qu'il y a des choses qui viennent de Mario, peut-être avec des étapes entre les deux, mais qui viennent à la base de Mario et qui sont reprises dans des tas d'autres jeux. C'est vraiment, je sais pas, c'est la leçon numéro un de ce qu'est le gameplay, quoi, de ce qu'est le game design. En fait. Ouais, ouais. Voilà.
D'une simplicité, on rappelle, un manette NES, il y a deux touches, hein, et avec deux touches, vous pouvez tout faire. On court, on saute, on repart en arrière, c'était super. C'est du game design ultra bien étudié, même encore aujourd'hui. Il y a vraiment des passages de plateforme où ça devient. C'est de la gymnastique mentale. Il faut passer, sauter, repartir en arrière. Machin. C'est d'une richesse incroyable.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a aussi du level design derrière. C'est aussi une première leçon de level design. C'est-à-dire tu calcules pile poil que la case elle va arriver là et que donc il va pouvoir faire son saut pile poil avec telle vitesse, tel machin.
Puis régler vraiment.
Ouais, c'est réglé au micro-poil, mais tout ce qui est warp zone, les dur, cases, les frustrant. Bonus. Toutes ces choses-là, c'est resté de là, quoi. C'est parti de là, quelque part.
Je l'ai téléchargé il y a peu sur la virtuelle console et je me suis rendu compte à quel point, en fait, le niveau de difficulté des jeux a baissé.
Mais tous les jeux.
Mais c'est incroyable parce que Mario, moi, je me rappelle très bien quand j'ai joué sur NES quand j'étais gamin. On avançait, on cartonnait, etc. Mmh. Et tu rejoues aujourd'hui, mine de rien. T'as perdu un peu tous les réflexes que t'avais à l'époque.
Est-ce que c'est ça ou est-ce que quelque part on est un peu moins patient aussi?
Ouais, peut-être.
Et que dans notre inconscient, en fait, on y avait passé des heures et des heures, on s'en foutait, alors qu'aujourd'hui.
Mais que dalle, j'ai rejoué à Rick Dangerous, qui était un jeu à Amiga il n'y a pas longtemps. Et Rick Dangerous, je te promets, pour passer les premiers tableaux, déjà tu te tires une balle. Mmh. Je ne sais même pas comment j'ai pu jouer à ce jeu. C'est pas une question de patience. Tu fais jouer à. Je sais pas, quel âge j'avais, peut-être 15 ans quand j'y jouais, mais. Tu prends un mec de 15 ans, mais jamais il veut y jouer. Quoi. C'est pas possible.
C'est la vieillesse, CAF.
C'est vrai.
Ouais, d'accord Angel. Avec CAF. Pour reprendre Greg, c'est des jeux avec une difficulté d'antan. Quoi, tu vois, c'est, voilà, moi, pareil, j'avais repris Ghouls and Ghosts parce qu'on l'avait reçu en arcade.
C'est super dur.
Ça, c'est effroyable. Et je me souviens, quand j'étais môme, j'y allais, mais je bastonnais. Quoi. Enfin, je passais les niveaux, je les enchaînais. Et là, j'ai péri. Pour passer le premier niveau. j'ai vraiment péri, hein, tu vois. C'était voilà, c'est la difficulté d'un autre âge, quoi. Mmh. Et les jeux sont devenus.
C'est
plus
quoi simple. Le jeu Neo Geo qui est sorti sur la Virtual Console assez magicien?
Magician Lords. Un mois pour le finir à l'époque.
Mais c'est impossible. Déjà. Mais déjà, c'est il
déjà.
Est hyper dur.
À l'époque, j'en ai chié grave. Quel et là, tu le reprends aujourd'hui.
Bon, donc, enfin bon, c'est pas le sujet du podcast, mais exactement, comme quoi.
Certes, recentrons les débats.
Comme quoi, dire que vraiment Mario, c'est emblématique vraiment d'une époque et ça continue encore aujourd'hui.
Et ça continuera. Sûrement encore longtemps.
Voilà, d'ailleurs, petit aparté, la semaine prochaine, sortie de Mario Galaxy, hein, on dédiera un podcast à la saga Mario. On reviendra donc sur toute l'histoire de Mario, puisque là, on vous parlait de Super Mario, mais bien évidemment, Mario n'avait pas commencé avec ce titre-là, puisque Mario ne s'est pas toujours appelé Mario, d'ailleurs. Hein, on en reparlera. pas. On continue, toujours la même année, un autre énorme gros titre qui nous vient du Japon et qui l'a vraiment aussi marqué vraiment une époque. Alors pour nous occidentaux, bien bien plus tard, mais enfin pour les Japonais, c'est une pierre angulaire du jeu vidéo, c'est Dragon Quest qui sort à cette époque, aussi sur NES. Et là, tout simplement, c'est la naissance d'un mythe.
Bah, c'est le jeu qui a posé toutes les bases du RPG, voilà, tel qu'il était japonais, à l'époque et tel qu'il est encore aujourd'hui. Voilà, quoi. Final Fantasy, par exemple, c'était le premier Final Fantasy, qui était donc le dernier espoir de Square à l'époque. C'était juste en fait une copie de la formule Dragon
Quest. C'est ça, parce que Dragon Quest avait marché, ils se sont dit bon.
Voilà, on va faire un Dragon Quest, c'était ça. Le premier Final Fantasy, c'était on va faire un Dragon Quest. Voilà. Donc c'est. Et puis voilà quoi. Enfin, depuis évidemment, plein de choses ont évolué dans la technique, dans la façon de représenter un peu tous les combats, les scènes d'exploration, etc. Mais enfin voilà quoi, c'est le jeu qui a posé les bases quoi.
Moi je dis. Bravo Dragon Quest.
Voilà. Alors, Dragon Quest, qui est un jeu finalement en plus difficile, enfin, qui est, par rapport à Final Fantasy, qui est beaucoup aventure, machin. Le Dragon Quest, c'est très arithmétique, hein, c'est très austère même un petit peu. C'est,
bah, disons
c'est
qu'il sec, a là où jeu. Final Fantasy a évolué toujours vers plus de technologie, etc. Dragon Quest est resté plus roots, plus longtemps quoi.
Final Fantasy, si je dis pas de conneries, c'était la grosse différence avec Dragon Quest quand il est sorti, c'était le fait que tu vois ton équipe à l'écran. Parce que dans Dragon Quest, tu voyais que les monstres quand t'étais en combat.
Et là, tu viens de.
Et là, tu viens de me coller, mec. Parce que je dois avouer que j'ai pas joué, évidemment, au premier Dragon Quest. Évidemment, ouais. Non, il y a bien des gens qui ont joué, mais moi, j'ai pas joué au premier Dragon Quest.
Et moi, les
Et donc, tu viens de me coller.
À cette époque-là.
La bon, honte, voilà. Ou coller
de,
tout court,
de tout le monde. Non, moi je dis c'est pas grave.
En tout cas, vraiment, c'était un jeu vraiment marquant. Et puis ça a débuté une saga juste cultissime. On continue avec quelques années plus tard. Bah, d'ailleurs, un autre jeu hein, dans lequel il y a Dragon aussi, mais alors ça n'a pourtant rien à voir, c'est Double Dragon. Et ça, c'est
Double Dragon.
C'est avec les deux. Double, ouais, je sais pas.
Bah oui, mais Double Dragon.
Double Dragon, là, c'est de l'arcade et on s'en met plein la gueule. Et du coup, Angel, microphone.
Moi, ouais, je l'ai retourné dans tous les sens en arcade.
Bah pareil.
Et je me ferai. Enfin, on y jouait à deux. Et puis, c'était un jeu de baston qui était puissant. Et puis, quand il jouait à deux, il y avait la fin surpuissante où tu te battais contre ton pote pour savoir qui allait se barrer avec la gondesse. Quoi.
Ouais.
Ce qui
c'est la classe.
Ce qui est vraiment, mais, voilà, d'un machisme sans nom. Mais à l'époque, ça passait comme une lettre à la poste, tu vois, genre aller
à la batte de baseball.
Tu vois, la nette regardait, et puis en gros, c'était maintenant, vous allez vous en foutre plein la gueule pour savoir qui va finir la nuit avec moi.
Non, mais là, il y a quelques instants, on parlait de karatéka. Très peu d'années qui s'est parlé de jeux, et pourtant, il y a un bond technologique.
Mais non, parce que les animes de Double Dragon, paradoxalement, sont vachement moins bien que celles de karatéka.
Ça restait
finalement.
Du deux étapes. Hein.
Mais les Double Dragon.
Torsion du buste. Frappage de batte de baseball.
Mais
ouais, mais en plus, par contre, le truc qui était fantastique, c'est qu'effectivement, tu jouais à deux.
Tu jouais pouvais à interagir, deux, puis, tu pouvais choper les adversaires.
Voilà,
tu avais les prises.
Il y avait beaucoup plus de coups différents que, qu'à
c'était,
l'époque.
C'était un beat'em all d'une richesse hallucinante pour
l'époque. Les persos, les ennemis étaient super riches et variés, pour reprendre un gros poncif. Mais là, c'était vraiment le cas, quoi, tu vois. Enfin, t'en retrouvais plein. Il y avait. Bah ouais, tu retrouvais le voyou, tu retrouvais. Le gros Mr. T, tu voyais la pute avec son fouet. il y avait tout, quoi, c'était parfait. Et les boss étaient plutôt bien foutus.
Mais c'est parce que je me demandais, c'était un peu. Moi j'y jouais en même temps que Golden Axe, c'était la bande d'à côté. Et je me demande si c'était.
Golden
Axe
est arrivé après.
Oui, il est arrivé après.
Golden Axe est arrivé après.
Parce que Golden Axe, il y avait les montures.
Mais par contre, il y a eu aussi Dragon Ninja.
Mais justement, c'est intéressant et c'est pour ça que justement sur ce podcast, Double Dragon a vraiment son importance. C'est par rapport à Golden Axe. Golden Axe reprenait la formule d'un Double Dragon
et rajoutait un
l'étoffant.
En plein dragon. C'est le jeu de ston
linéaire
que voilà, dont tout le monde se souvient. Voilà,
ah ouais, mais c'était moi je me souviens.
Enfin,
j'ai claqué un nombre de thunes. Enfin, je le finissais au bout d'un moment, mais justement, tu vois, difficulté à un autre âge. Mm-hmm. Moi, ce jeu-là, je le terminais avec un seul crédit. Tu vois, vraiment, je mettais une pièce, je le finissais.
Mais c'était une époque où on connaissait tout par cœur.
Et non, parce qu'à l'époque, voilà quoi. Enfin, déjà, t'es jeune, t'es acharné.
Je faisais ça avec Wonderland.
Mais enfin, bref. Mais tout ça pour donc c'était le beat'em all qui a marqué son époque parce que pour plein de raisons différentes.
Mais
quand
t'as habité en
Provence, vachement beau, parce que les coups étaient plus variés, comme les ennemis et tout. Quoi.
Alors attends, parce qu'il y a Théreux là qui veut parler.
Ouais, non, non.
Je respecte toute la province.
Alors, si vous voulez taper, il habite à côté de la place de la Bourse. Non, non, mais c'est tout bête. Mais quand t'attendais ton train
gamin en province et que t'avais pas beaucoup d'argent de poche, t'avais intérêt à être bon au jeu d'arcade, sinon tu te faisais grave chier, quoi. Donc c'est un truc, tu devenais
ouais,
bon par
ça,
nécessité.
C'est ça, de toute façon, quand t'es jeune, comme t'as pas beaucoup de thunes, t'as intérêt à être super bon, quoi, parce qu'autrement, ton moment de détente, il va durer 3000. Enfin, tu vois, selon ton niveau. Selon ton niveau, ton moment de détente, il peut durer entre 2 minutes et 1 heure, quoi, tu vois.
Exactement.
C'est super variable. Donc t'as intérêt à assurer.
J'ai des sales souvenirs de ça.
Même à l'époque, 10 francs avec l'argent de poche qu'on pouvait avoir, c'était une somme, quoi.
Et puis ils avaient augmenté les prix en Neo Geo après, c'est un scandale, mais ça, je vous en parlerai, de l'inflation des jeux d'arcade plus tard.
Est-ce que ça vous dit qu'on parle d'un autre jeu cultissime dans, une fois de plus, un registre radicalement différent? Ça se rapproche peut-être un peu plus de Dragon Quest. C'est en tout cas la réponse de Nintendo au jeu d'aventure, et c'est bien évidemment The Legend of Zelda qui débarquait en 86 sur NES. Alors, là, fondamentalement, est-ce que Zelda a inventé vraiment quelque chose, un style propre? Oui, l'action RPG entre guillemets, mais est-ce que c'était pas juste une amélioration de plein de formules déjà créées?
Est-ce qu'on pouvait couper l'herbe déjà?
Sur NES,
je crois pas.
Il y a des
pièces
d'or.
Moi, j'ai encore joué à la version DS. Là, je coupe l'herbe en permanence.
Mais moi, j'arrête pas. Tu fais des weird wings.
Voilà, c'est un truc.
Non, mais Link est la meilleure tondeuse du monde.
C'est clair. Sur Wii, j'arrête pas de faire. J'arrête pas de jouer la manette.
Donc, on est sur NES. Premier jeu en tout cas qui aura marqué, parce que c'est quand même le premier jeu console qui a porté une puce de sauvegarde. Donc, c'est la première fois on était. Et puis pour
pile en l'occurrence.
Pour ce genre de jeu, c'est une pile de sauvegarde. Ouais. Je vais vous en mettre des piles. C'était vachement important parce que c'est l'un des premiers jeux aussi sur console qui avait une durée de vie colossale.
Véritable aventure.
Non mais voilà, c'est des dizaines d'heures de jeu. Donc là, on n'avait pas à se taper des codes à 72 chiffres, Y, B, 27, 98, où à chaque fois, forcément, il y avait un chiffre ou une lettre qu'on ratait. Et donc, on était dégoûtés. Donc
et
là,
même, j'ai une anecdote.
Ah, attention, instant non, anecdote.
Non, c'est pas ça, c'est que même sur Super Nintendo à l'époque, toutes les cartouches n'avaient pas la pile de sauvegarde.
Non, puisque c'était le premier.
Et je me rappelle notamment, moi j'avais acheté la Super Famicom en import. Mm. Et mon premier jeu, c'était Goemon. Je sais pas si vous vous souvenez de
Konami.
Ouais, Mystical Ninja. Et donc, il fallait taper des lignes et des lignes de code. Et donc, c'était en japonais. Donc, c'était des hiragana et des katakana, etc. Bon, c'était des hiragana seulement, je crois. Enfin, bref. Et moi, je l'ai recopié comme je pouvais, etc. J'ai jamais pu enclencher le jeu au-delà du deuxième niveau, quoi. Oh, tu vois, c'était impossible. Et donc, à chaque fois, j'essayais, un peu comme toi avec Double Dragon, de le faire d'une traite, quoi. Parce que c'était évidemment super long, super dur. Donc, merci la pile de sauvegarde de Zelda sur NES.
Très, très utile. Et puis, l'un des premiers jeux, justement, qui permettait d'avoir un arsenal conséquent, où on passait de donjons. On avançait, il y avait plusieurs niveaux, enfin c'était vraiment
c'était
une vraie
dynamique.
Aventure, quoi.
C'était super dynamique par rapport à tous les jeux du genre qui étaient vachement lents. Parce que si on veut reprendre, enfin moi les premiers RPG hein, je te parle, que j'ai fait, c'était genre Mandragore sur MSX. Ouais. Et alors là, graphisme sommaire, déjà il fallait 2 heures pour charger le jeu sur cassette vidéo, sur cassette audio, toucher le câble du lecteur de cassette, ça plantait, fallait recommencer. C'était insupportable quoi. Donc c'était une avancée technique qui était géniale, Zelda, dans le gameplay, dans tout quoi.
Bah, fan, un peu à la manière de Dragon Quest, c'est un jeu qui a posé vraiment les bases. Quoi.
Les bases.
Que, le côté donjon, objet, nouveau truc que tu peux explorer, etc. Enfin, l'évolution comme ça par l'objet que tu récupères, le monde qui.
Ouais, c'est ce qui fait qu'on qualifie d'autres titres aujourd'hui comme des Zelda-like.
Bah,
par
carrément.
À cette progression-là. Quoi.
Là, c'est la version typique. D'ailleurs, Candy, il avait fait un super strip là-dessus. C'est un de mes préférés. Tu sais,
oui, avec la,
Link
avec la bouteille
qui trouve un décapsuleur et fait à quoi ça pourrait bien me servir. Et là, tu vois la tronche du boss, c'est une bouteille. C'est trop con. Enfin voilà,
et
c'est
ça,
Zelda.
Ils ont toujours
quoi.
Pas changé. Dans tous les
mais
jeux,
voilà. Et voilà. Et pourtant, bon Dieu, cette formule, elle marche toujours aussi bien. Quoi. C'est dingue.
1000 sabords, c'est bien vrai.
Voilà.
1000 sabords.
Tonnerre de Brest.
Très bien. Bon, puisqu'on parlait de donjons, c'est incroyable à quel point ces podcasts ont toujours des liaisons phénoménales. Puisque une année plus tard,
tout
en 87,
eh
bien, Dungeon Master. Voilà, Master.
Vous pouvez tous partir, je vais parler. Voilà.
Très bien.
Non, attends, t'es gentil. Et oh.
Attention, qui voudra parler sinon on reste en l'air. Donc il y en a deux.
Bien, j'ai envie de fumer une clope.
Donc les deux sur le canapé. Toujours bien. D'ailleurs, je tiens à souligner parce que vous ne le voyez pas, mais il y a toujours éternellement sur ces podcasts. Des gens assis sur des fauteuils, donc Angel, Julo
et moi, de bar.
Pas toujours super agréablement, et les deux là, les darons là,
mais
qui se tapent
ouais,
le canapé. Hein.
Ouais mais attends, mais Angel bon, sur un tabouret canap. De bar en même temps.
Ouais,
c'est vrai, c'est logique.
Et puis tu connais le séant de Raon qui doit être toujours assis sur un véritable trône. Voilà, c'est Raon.
Bon, on pourrait parler de Dungeon Master, merde.
Bah ouais. Dungeon Master 1987, what about?
Eh bah, c'est déjà le jeu qui a fait acheter un Atari ST à plein de gens. Parce qu'il est sorti
et c'est le jeu le plus vendu sur Atari ST de tous les temps.
50% des gens qui ont un Atari ST ont eu Dungeon Master.
Moi, j'étais moins con, j'avais un Amiga. Moi.
Et ça, c'était. Oui, non, mais attends, mais Amiga,
non,
c'était 88.
Moi, j'ai un Amstrad CPC.
J'ai joué sur 88.
C'était
après,
vachement plus classe que le Razer.
Mais il était déjà sorti sur ST. Et bah, déjà, c'est un truc tout bête. C'est le premier RPG en temps réel. Ça, c'est énorme. C'est la première fois que tu pouvais prendre un monstre, la tirer à toi parce que tu n'arrivais pas à le buter à coups de boule de feu. Et tu pouvais le coincer sous la porte. Et bah, ça, c'est un truc. Coincer un monstre sous une porte dans, d'une manière dynamique.
Ah, c'était extraordinaire.
Mais c'est juste. Nous, on était quand, j'étais devant, je regardais la porte faire.
Mais au départ, moi, je savais pas. Moi. C'est un pote qui m'avait montré à l'époque.
Tu savais pas putain,
mais non, au départ, j'avais pas fait gaffe. Jamais de la vie, j'aurais pensé que je pouvais coincer une momie sous une porte. Moi, je me faisais chier avec les armes et tout. Et là, déjà, j'ai mon pote qui me regarde, le... qui ricane derrière moi. Voilà. Et il me dit, parce qu'on s'est changé les plans, etc. Donc, on jouait ensemble.
Prenez juste cette phrase, isolez leur contexte. Voilà.
Isolez cette phrase,
elle est fantastique. Dans une soirée.
C'était quoi cette phrase?
Mais j'aurais jamais pu imaginer qu'on pouvait coincer une momie sous une porte.
Je m'étais moi-même pas encore posé la question, mais bon, puisque tu le dis.
Alors qu'une momie, une porte.
Non, mais c'est vrai. Et donc, et c'était aussi le premier jeu de rôle de ce type-là, avec une interface entière en click and play.
Ouais.
Où tu pouvais interagir avec les objets, c'est-à-dire que quand tu avais un truc qui tombait au sol, tu prenais ton curseur, tu allais le ramasser pour le mettre dans ton inventaire.
Les sorts, les sorts,
les sortilèges, c'était des runes, effectivement, que tu cliquais les unes après les autres pour former les sorts en temps réel, alors que tu avais le strum en face de toi qui était en train de faire et que
tu
étais en train de flipper parce que tu avais déjà deux persos qui étaient en train de crever.
Il y avait deux animations sur les monstres, hein, mais c'est pas grave. C'est, dans mon esprit, c'était des trucs en 3D super beaux. Alors qu'en fait, j'ai
et c'était une vue subjective aussi, c'est quand même. Enfin, bon, la vue subjective, ça date d'il y a bien plus longtemps que ça, mais à l'époque, ça était quand même assez peu commun.
Voilà quoi. Mais après, en plus, ça a donné lieu à plein de trucs parce que The Eye of the Beholder, etc.
Ah oui, c'est toute la ligne. Et même ton favori, à juste titre d'ailleurs, Ultimate Underworld.
Ultimate Underworld, qui est d'ailleurs considéré comme la seule vraie avancée dans ce genre de jeu, mais c'était en 92. Donc c'était 5 ans
bien,
après.
Bien, bien après.
Carrément. Parce que Dungeon Master a calmé tout le monde. Les gens ont dû intégrer le truc. Et le pire, c'est que Dungeon Master, ça a été fait par une boîte qui s'appelait Faster Than Light, FTL.
Ouais.
Et ils ont fait un jeu qui était Sundog, qui était la plus grosse vente de l'année de sortie de l'Atari ST, qui était un jeu de traite spatiale, c'était une sorte de Elite,
ouais,
qui était fantastique. Et en fait, voilà, ils ont fait ces deux jeux-là. Et ils ont fait d'autres titres, mais qui étaient super nazes à côté. Et la boîte est morte en 95, un truc comme ça, quand ils ont sorti une version remasterisée de la NFL de Dungeon Master, parce qu'ils n'ont jamais fait mieux, en fait. Et ça a été leur coup de génie, et ils ont vraiment fait avancer, mais tout, quoi. Le game design en termes de RPG a jamais été pareil. Il y a un truc tout con, c'est que tu avais une équipe de 4 personnages.
Et tu les sélectionnais donc au départ.
Et tu choisissais qui était devant. Donc tu choisissais les prendre des coups dans la gueule quand les monstres arrivaient en face, en fait.
C'est vrai que rien que ça, c'est un détail.
Tu mettais tes
mages
derrière,
mais
tu vois.
Tu choisissais le tanker.
Exact. Oh,
mais oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est que effectivement, tu répartissais. Tu avais une vraie notion d'espace dans la façon dont tu progressais dans le donjon. Pas seulement visuellement, mais aussi dans la façon dont tu gérais ton équipe.
Il fallait trouver. Enfin, fallait choper la bouffe pour se reprendre des points, etc.
Oui.
D'ailleurs,
tu fallait savoir quelle viande tu pouvais récupérer ou pas.
Et tu cliquais sur l'écran. Enfin, c'était la première fois. Tu cliquais sur un mur visuel que tu voyais parce que tu savais que cette brique dépasse un petit peu. Il doit y avoir un passage secret. Ça a l'air con quand on dit ça maintenant, mais à l'époque, on n'avait juste jamais vu ça. Quoi.
Et puis les jeux les plus récents, qui sont finalement les successeurs actuels de ce qu'était Dungeon Master à l'époque, ça va être les jeux de Arkane Studios.
Oui, bien sûr.
Blablabla.
Ah, comment tu viens de me planter là.
Écoutez, si ça vous revient, en tout cas, clairement, c'est un jeu qui visiblement vous a marqué.
Bah ouais.
Parce qu'il a apporté effectivement
Arx Fatalis.
Voilà.
Un lot d'innovation assez colossal.
Oui, ça a marqué toute une génération de joueurs et des gens d'ailleurs qui ne sont pas joueurs. Parce que moi, j'avais interviewé pour RTL il y a des années un guitariste de groupe FFF, tu vois, le mec qui n'est pas pour un fondu de jeux vidéo. Et le mec, il te dit, bah voilà, moi je suis sur ce jeu-là. Quand j'avais une copine à l'époque, j'avais l'Atari ST au bout du lit et elle a failli me tuer plusieurs fois parce que je passais la nuit dessus. Et voilà, et le mec, il n'a jamais joué que à Dungeon Master sur
ST. Et on avait marre de devoir écraser des momies sous les portes.
Bah, je pense, mais surtout, ça faisait un sale bruit. Vu comment tu le faisais, quoi.
Non, mais le cri de la momie, tu te souviens du cri de la momie?
Non.
Oh, oui, il pourrait te le faire très bien, mais justement, ça risquerait de vous glacer des froids, donc on va éviter.
Le rire de Raon, c'est un hommage à Dungeon Master.
Exact, exact.
Et voilà, à tous les jeux de
coming up.
Flap, flap.
Donc, Dungeon Master 87, un jeu à retenir. C'est toujours difficile parce que autant des livres, on peut toujours les retrouver, autant des films, il y a toujours généralement des rééditions DVD, etc. Autant les jeux vidéo, c'est pour ça que les efforts qui sont faits sur la Virtual Console, qui sont faits sur des réadaptations sur les Xbox Live ou le PlayStation,
ou les émulateurs sur PC,
voilà,
parce que
sont intéressants,
des fois la légalité est un peu borderline, mais tu peux complètement rejouer à Dungeon Master maintenant en émulation et te rappeler à quel point c'était laid.
Donc
même
si vous l'avez
Windows
de manière
Vista,
complètement légale, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous replonger un petit peu dans l'histoire du jeu vidéo. Alors c'est certes, ça a vieilli, certes, c'est beaucoup moins beau, mais parfois franchement on y retrouve vraiment de très très belles pépites. On continue notre progression puisque nous abordons désormais le dernier virage qui nous sépare de cette barrière de l'année 90 qui sera la fin de notre première partie. 89 désormais avec Shadow of the Beast, un autre jeu juste colossal qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre,
qui
a fait vraiment kiffer énormément de gens.
Ouais. Fait vendre des Amiga.
C'est surtout ça, voilà. C'était pas vraiment un super bon jeu. C'était assez rigide.
Le personnage avait un look assez particulier.
Il avait un espèce de masque en os animalier. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais moi, je me souviens beaucoup de Shadow of the Beast parce que c'est la première fois que j'ai vu de la profondeur dans un jeu vidéo rendu de cette manière-là, quoi. Parce que c'est le premier scrolling parallaxe, ça s'appelait, qui était démocratisé. C'est pas le premier scrolling parallaxe en soi, parce que le premier scrolling parallaxe.
C'est en 82, je crois.
C'est ça. C'est
Moon Patrol.
Tu as bien récupéré les notes.
Comment il a suivi les notes dans
Qu'est-ce qu'exactement un screen parallax?
Alors, un scrolling parallax, en fait, c'est un scrolling. Un scrolling parallax, c'est un scrolling où il y a plusieurs bandes qui défilent à des vitesses différentes
qui donnent une impression de profondeur.
Voilà.
D'avoir un arrière-champ.
Voilà, qui va moins vite que le début. Et dans alors, je ne me souviens plus combien il y en avait dans Shadow of the Beast, mais je crois qu'il y en avait 12 sur Amiga. Il y avait 12 niveaux de profondeur ou un truc comme ça. Je sais, c'est vraiment de
peut-être
mémoire,
j'aurais dit 7, mais si tu vois.
C'est peut-être la version Atari ST.
Tu m'aurais filé des dés et ça aurait été pas
voilà,
mal. En fait,
à 2D6. Il y avait 2D6 profondeur. Voilà.
Non, mais vraiment, c'était une bidouille graphique qui permettait à l'époque.
Non mais déjà ce jeu avait éclaté plusieurs trucs parce que le scrolling parallax déjà ils en ont fait plus que même les mecs qui ont fait la machine pensaient pouvoir faire et ensuite il y avait plus de couleurs affichées à l'écran aussi que si ma mémoire est bonne que ce qui était prévu aussi de base.
Est-ce que c'était pas un peu un jeu incroyable. Démo technique quand même?
Si.
Bah, c'est, on était en plein dans l'époque en même temps.
C'était pas terrible.
Le
jeu lui-même d'ailleurs je l'ai jamais terminé, ça m'a pas
Ouais, puis c'est un des premiers jeux Psygnosis aussi.
Je sais pas si c'était le premier, mais c'était
non,
un jeu Psygnosis.
Premier,
ouais.
L'un des premiers jeux Psygnosis. Il me semble qu'il y a fait après vraiment des jeux.
Et Psygnosis, déjà, enfin, à l'époque, jusqu'à PlayStation, a fait des très très bons jeux. Mm-hmm. Et effectivement, c'était un jeu Psygnosis, mais c'était loin d'être leur meilleur à l'époque. Mais effectivement, je suis pas dû passer le quatrième niveau, tu vois, au bout d'un moment donné, ça m'a saoulé. C'est-à-dire que, première fois, tu vois le scrolling parallax.
C'était quoi comme style de jeu? C'était un jeu d'action?
C'était un jeu de plateforme action.
Ouais, c'est ça.
C'était un jeu un peu comme les Turrican et tout ça. Effectivement, il n'avait pas le génie d'un Mario, ça c'est sûr.
C'était très rigide, des fois tu ratais des trucs alors que tu étais sûr de les avoir. Enfin, c'était relativement mal réglé, on va dire, mais c'était une vraie démo technologique.
Mais tu avais l'impression vraiment de passer dans un monde différent parce que tu voyais cette profondeur pour la première fois. Au lieu d'avoir juste un décor qui défile avec un scrolling tout simple, tu voyais vraiment. Il y avait un sens de l'horizon, un sens d'être dans la plaine, d'être dans un monde différent. Quoi.
Et les musiques étaient top.
Dans les bornes pleines.
J'ai enregistré sur cassette
X milliards de jeux derrière avec plus ou moins de succès et parfois c'est étonnant de voir que les premiers à l'avoir fait s'en sortaient finalement très bien alors que d'autres ont essayé de copier et puis c'était pas toujours super réussi. Ouais. En tout cas,
t'as pas donné le nom du jeu en relisant les notes sur le premier scrolling
parallax. Moon Patrol 1982 qui aurait été le premier. Alors pourquoi on en a pas parlé? Pourquoi on
parce que personne
n'y
a joué.
82 avec Moon Patrol.
Parce que personne n'y a joué. Parce que les jeux qui...
Attends, t'as pas rejoué à tous les jeux dont on a parlé dans le podcast là?
Si, ceux-là. Moi, j'ai joué Moon Patrol. Si on en a pas parlé, c'est parce que j'y ai pas joué.
Très bien.
Non, non, mais c'est
tout jeune.
Les jeux qui font progresser le média sont pas forcément les premiers à faire quelque chose.
Julien.
C'est ceux dont on se souvient vraiment.
J'avais bientôt 2 ans.
Et voilà.
C'était génial.
T'es né en 1980.
Et ouais.
Oh là là.
Et ouais. Ça fait déjà bien trop longtemps. 89. On passe avec un autre jeu qui là. Clairement, vraiment, on l'a ébauché très rapidement, on en a parlé un petit peu. C'est Prince of Persia, un jeu ultra complet, hein, techniquement, au niveau de l'immersion, au niveau de l'intellect que ça devait gérer pour pouvoir retrouver les trucs. C'était en 60 minutes, une heure, on devait finir le jeu. Donc en plus, il y avait une pression.
Jordan Mollier
à son top level quand même.
Puis c'est surtout un jeu où tu pouvais te rattraper avec les mains sur ta plateforme et te lever. Et ça, c'était génial.
Avec
et
des animations qui te déchiraient.
Avec
aussi.
Des animations juste. Je faisais exprès de rater les plateformes pour pouvoir me rattraper. C'était génial.
Moi, je faisais exprès de le foutre sur des pics.
Toujours bien aimé l'empalement.
Voilà.
Ça rappelle le château des Carpates dont Ken parle.
Et donc, cette semaine. On vous le disait tout à l'heure, hein, Jordan Mechner, donc aussi créateur de Karateka dont on a parlé. Là, c'était avec carrément filmé son frère donc, en Super 8 après avoir décortiqué tous ses mouvements. pour justement faire cette impression d'animation très fluide.
Mais elle était parfaite. Elle était parfaite. Ouais, c'était parfait. Et ce qui était génial,
il a inventé la motion
c'était pas
capture
seulement.
Avant.
Voilà, c'est vrai que c'est une forme de motion, c'est une des premières formes de motion capture. Et c'est pas seulement super beau à regarder. C'était super jouable.
Ah ouais, mais carrément.
C'est-à-dire qu'il avait quand même réussi à intégrer des animations super lourdes avec beaucoup d'étapes, hyper fluides et tout, et à en faire quelque chose qui reste quand même jouable.
Puis il y avait une super ambiance, quoi. Enfin, le conte des mille et une nuits revisité.
C'était une super idée à la base.
Franchement, ouais.
Ah non, c'était une très bonne idée et le gameplay était top, quoi.
D'ailleurs, je recommande à tout le monde de télécharger donc et d'acheter la version qui est sortie sur le Xbox Live Arcade retravaillée en HD,
qui est très
bien foutue.
En Prince of Persia en HD,
mais c'est super bien chiadé. Hein.
Ils ont repris le personnage de la version Sands of Time.
Oui, c'est vrai.
Et il est très très bien fait, ouais.
Parle dans le micro, ça serait génial.
Qui est revenu, qui a participé justement au récent Prince of Persia après l'échec de la version 3D sur PC quelques années auparavant.
Qui a été la version la plus pourrie de tous les temps.
De tous les temps, très, très impliqué en tout cas. On va conclure cette grande période, ces 10 ans de jeux vidéo révolutionnaires, avec un jeu qui l'est tout autant et qui a vraiment marqué son époque et qui a permis de découvrir une nouvelle figure emblématique du jeu vidéo, c'est Populous. Donc le premier God Game, le premier jeu bac à sable, le premier
de Monsieur Peter Molyneux.
Voilà.
Et
Molyneux.
Je pourrais même pas te dire le nombre d'heures que j'ai passé sur mon Amiga ou à ce truc-là.
Est-ce que tu peux nous resituer déjà un petit peu de quoi ça parlait, comment ça
en fait, t'avais des petits bonhommes rouges et puis des petits bonhommes bleus. Et puis il fallait aller tuer ceux qui te worshipaient, enfin qui te vénéraient pas. Voilà. Toi, t'avais une peuplade que tu devais que tu dirigeais pas directement, c'est-à-dire que tu vas t'occuper du terrain, tu la planissais, tu faisais en sorte puis s'installer, etc. Et puis au bout d'un moment, ils se fightaient quand ils croisaient les rouges.
T'étais dieu en quelque sorte, quoi.
Exact.
Voilà, d'où le God Game.
C'était tellement génial comme idée et c'était tellement du jamais vu. Mais je te promets, j'ai joué sur Amiga, mais
j'ai joué sur Atari ST.
Il est sorti sur toutes les bécanes. Voilà.
Oui, puis il a sorti sur console aussi et tout. Enfin, il était ultra. Il y en a eu un paquet. Hein. Mais effectivement, les deux versions originales, c'est Atari ST et Amiga.
Et ce qui est rigolo, parce qu'après, derrière, il y a plein de gens qui lui ont dit on dirige pas les mecs directement, on fait pas la guerre et tout.
Alors que c'est ça qui était génial.
Alors que c'était ce qui était génial, et du coup, derrière, il a fait Powermonger, qui était un truc de guerre et qui était 10 fois moins bien, à mon sens, tu vois. Enfin, bon, bref. Ah, c'est une autre histoire.
J'avais bien aimé, moi, mais Populous, c'était effectivement, c'est un des premiers jeux aussi un petit peu contemplatif parce que tu voulais absolument faire le pays le plus plat possible pour que les mecs ils construisent tout le temps des super donjons super grands, et si le terrain est pas plat ils pouvaient pas faire les belles maisons qui allaient bien. Donc tu te faisais chier avec ça, tu allais foutre des volcans chez l'adversaire, etc. C'était je sais plus combien de niveaux, il y avait des centaines de niveaux. Ça ne changeait pas en plus, il y avait peut-être quoi, 4 univers graphiques différents, tu vois, il y avait la forêt, le désert, la neige, et puis je sais pas quel autre truc.
Et les steppes ardes.
Enfin bon bref, c'était assez austère.
C'était hyper limité à la
base. Je sais pas comment on a fait d'ailleurs pour jouer à autant de niveaux les uns après les autres,
surtout,
c'est tout le temps pareil.
Surtout qu'en plus, il faut se rappeler, parce que moi quand je me rappelais de Populous, je me rappelais d'un jeu hyper grand, avec des écrans et tout, et en fait quand il joue, l'angle de vision, vision du truc, il y avait rien.
Parce qu'après, t'as tous les menus, les icônes, le bouquin au-dessus,
tu vois que dalle.
Les jauges d'hommes et tout.
Tu vois que dalle. Alors maintenant, moi, je trouve ça naze, alors que maintenant, je trouve que... Enfin, à l'époque, je trouvais le jeu hyper grand. Et putain, j'ai re-regardé il y a pas longtemps, j'ai fait putain,
mais en fait, on trouvait hyper grand parce qu'on scrollait.
On scrollait, puis on avait
la taille doit être énorme.
Et puis, on n'a jamais vu ça à l'époque. Quoi. On n'avait juste jamais vu ça. Donc, non, on est fan.
Puis les mecs rentraient dans leur baraque, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de forme d'IA de groupe que tu comprenais pas trop. Ouais. Alors, c'est sûrement des bugs bien exploités.
Ouais, c'était Peter Molyneux déjà à l'époque.
Voilà, donc, mais les mecs rentraient dans les maisons, puis des fois ils ressortaient, ils commençaient à construire des trucs.
Rien pour ce jeu, Peter Molyneux mérite le respect. Point.
Voilà
malgré tous les pipeaux qu'il nous a racontés après.
C'est sûr.
Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est une belle manière de conclure cette première partie de ce podcast dédié aux jeux qui ont vraiment fait avancer l'histoire du jeu vidéo. Parce que oui, là, on s'arrête
plein milieu.
Fin des années 80, début des années 90. Il nous en manque, bien évidemment, beaucoup. On ne peut pas parler de tous les jeux. Maintenant, on va vous laisser sur les forums pouvoir parler des jeux qui, pour vous, ont fait avancer notre médium préféré. Et puis, justement, on aura l'occasion de revenir dessus, si vous en avez extrait certains qu'on aurait malheureusement oublié, puisqu'on va revenir, non pas la semaine prochaine, puisque je vous le rappelle, la semaine prochaine, nous aurons un podcast dédié à Mario, à la saga Mario, et bien évidemment aussi une sorte de mini-test de Mario Galaxy, l'occasion de sa sortie sur Wii. Et puis, la semaine suivante, eh bien, nous reviendrons donc avec la deuxième partie qui, cette fois, sera des années 90-2000, avec, je vous le dis, allez, un petit florilège, hein, du Another World, Street Fighter 2, Dune, Wolfenstein 3D, Virtua Racing, Star Fox, Alone in the Dark, Tomb Raider, Ultima Online, ICS Pro Evolution, Jet Set Radio, Mario 64, Final Fantasy 7, Gran Turismo, World of Warcraft, GTA, Mario Kart, Doom, arrêtez-moi sinon je continue, Zelda Ocarina of Time, il y en a donc plein, vous l'avez compris, plein de jeux sur lesquels on aura plein de choses à dire, plein d'anecdotes, et puis resituer un petit peu tout ça. Donc nous on se dit à la semaine prochaine avec Mario, et puis à dans deux semaines avec les jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. En attendant, bah, on compte sur vous, sur les podcasts, non, sur les forums surtout, pour le prochain podcast.
On va vous inviter
de Gameblog.fr.
Ciao,
on
ciao.
On se dit à la semaine prochaine.
Ouais. Salut.
Ciao, ciao.